Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Mathilde Wagman, Denis Ramon, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Adèle Van Rett. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Olivier Guérin. Avec à la prise de son aujourd'hui, Alexandre Dang.
Viens danser, allons danser, même sur n'importe quoi, mais allons danser.
Danser pour oublier que le monde est à bosser.
Et tu danses avec lui,
danse avec moi.
Dans un article de 1837 consacré à la danseuse autrichienne Fanny Elssler, le poète et critique d'art Théophile Gautier déclarait « Après tout, la danse n'a d'autre but que de montrer de belles formes. C'est un rythme muet, une musique que l'on regarde. La danse se prête peu à rendre des idées métaphysiques, elle n'exprime que des passions. » Et de fait, la danse n'a pas suscité les émois métaphysiques des philosophes. Si l'on se penche sur l'histoire de la philosophie, la danse a même été complètement délaissée, exclue des beaux-arts, rendue dépendante de la musique, de la poésie ou encore du mime. Mais enfin, tout dépend de quel émoi on parle, parce que la danse a quand même réussi à susciter des critiques, et pas des moindres, quand elle a été regardée pour elle-même, quand on a éteint la musique et qu'on a suivi les lignes des gestes dansés, on l'a dit superficielle, divertissante, titilleuse de sens. Bref, Théophile Gautier semble avoir visé juste. Prise pour elle-même, la danse serait incapable de s'acoquiner avec la métaphysique et du coup avec la philosophie. Mais c'est sans compter sur la multiplicité de la danse. Il n'y a pas que la danse de ballet où l'homme attaque et la femme se défend mollement. Il y a aussi les danses religieuses, les danses rituelles et populaires, autant de danses pour éveiller, éduquer et penser. Et puis, il y a aussi la danse contemporaine où le corps qui danse ne renvoie qu'à lui-même, qu'à ses propres mouvements, où la main ne représente pas une fleur par exemple, mais une main, tout simplement. Mais enfin et surtout, il y a cette question que seule la danse permet de poser à la philosophie. Pourquoi serait-elle forcément métaphysique? Pourquoi ne deviendrait-elle pas aussi physique? Pourquoi finalement la philosophie ne danserait-elle pas aussi? Et si la danse était alors le meilleur moyen de penser autrement les grandes questions que pose la philosophie? Réponse toute cette semaine, de la question de la création à celle de l'œuvre en passant par ce qu'est le mouvement. Mais aujourd'hui, demandons-nous quelle est la philosophie de la danse en compagnie de Julia Bockel.
C'est pas génial ici?
C'est fantastique. J'aime beaucoup.
J'adore cette chanson.
Ah oui?
Vous aimez danser?
Vous voudriez?
Bien sûr, avec joie. On y va tous?
Je crois qu'il est trop déprimé pour danser. Et Jimmy, on va danser, tu viens?
Je suis trop déprimé pour danser, allez-y vous.
L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie constituent le système déterminé et articulé de l'art effectif réel. Il y a bien encore, outre cela, d'autres arts imparfaits. L'art des jardins, la danse, etc., dont cependant nous ne ferons mention que de manière occasionnelle. L'examen philosophique, en effet, doit uniquement se tenir aux différences conceptuelles et développer et concevoir les configurations véritables adéquates à celles-ci. Certes, la nature et la réalité effective n'en restent pas à ces délimitations déterminées, mais s'en écartent dans une liberté plus vaste, et à cet égard, on entend plus souvent qu'à son tour chanter la gloire du fait que les productions géniales doivent précisément s'élever au-dessus de ce genre de démarcation. Mais de même que dans la nature, les espèces hybrides, les amphibies et autres transitions ne donnent guère à voir que leur impuissance en lieu et place de l'excellence et de la liberté de la nature, savoir leur incapacité à garder fermement les différences essentielles fondées dans la chose même et à empêcher que celles-ci se rabougrissent sous l'effet de facteurs et de conditions extérieures, il en va de même dans l'art avec ce type de genre intermédiaire. Bien que ceci puisse encore produire, sinon quelque chose d'élevé, du moins plus d'une réalisation réjouissante, charmante et méritoire.
Bonjour Julia Bockel.
Bonjour.
Je suis ravie d'ouvrir cette semaine consacrée à la danse avec vous. Vous êtes docteur en philosophie, vous pratiquez la danse. Vous avez dirigé avec Roger Pouivet Philosophie de la danse, un ouvrage collectif disponible aux presses universitaires de Rennes. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage à paraître, toujours aux presses universitaires de Rennes, Esthétique de la danse, le danseur, le réel et l'expression. Alors on vient d'entendre, lu par Jean-Louis Jacopin, un extrait des cours d'esthétique d'Hegel. Il s'agit du second volume de ses cours, c'est la troisième partie. Hegel vient de présenter son système des beaux-arts et il annonce qu'il n'y a pas de place ni pour l'art des jardins, ni pour la danse, etc. Doit-on, comme Hegel, renoncer alors à une philosophie de la danse à cause de son caractère hybride ? Ou parce que, comme on l'a entendu dans l'extrait du film de Whit Stillman, Last Day of Disco, la danse est d'abord une pratique familière du samedi soir, une pratique sans dignité philosophique. Julia Bockel.
Alors, il est vrai que... Tout comme Hegel, de nombreux philosophes ont négligé la place et l'importance de la danse pour la réflexion et pour la pensée, et même sa dignité. Un article d'un philosophe anglo-saxon, Francis Parchot, intitulé « Why do philosophers neglect the aesthetics of dance ?» ce qui veut dire « Pourquoi les philosophes négligent-ils l'esthétique de la danse ?» essaie de trouver en fait, des hypothèses pour expliquer cette négligence. On pourrait parler d'indifférence philosophique à l'égard de la danse. Et donc, pour parler de cette... il évoque en fait la prétendue insuffisance et la non-autonomie de la danse par rapport aux autres arts. Alors... souvent, il était entendu que la valeur de la danse n'était pas indépendante de celle des autres arts qu'elle accompagne, à savoir la musique ou le mime, dès l'Antiquité. Hein. La danse n'était pas considérée comme artistique en elle-même.
C'est ce qu'on trouve dans la poétique d'Aristote, voilà. Mais c'est aussi le texte d'Hegel, de dire que la danse est une espèce hybride, une amphibie, une transition.
Oui, c'est ça. Et Platon également méprisait la danse. Il la valorisait en tant que pratique civique ou religieuse, mais dès qu'elle était en fait l'objet d'un spectacle, elle était en fait un élément additionnel, un aspect secondaire ou périphérique par rapport aux autres arts. Donc sa fonction était limitée, son rôle était très restreint. À l'opéra, plus tard, elle ne servait que d'interlude ou de simple démonstration. Donc par ailleurs, la mauvaise réputation de la danse en tant que spectacle en fait, tient au fait que les propriétés visibles n'ont pas d'intérêt pour elle-même. La danse, elle est intéressante lorsqu'on la pratique, lorsqu'on la vit. Alors à ce moment-là, elle est investie d'une signification, d'un sens. Pourtant, mais en tant que spectacle, elle semble dépourvue d'intérêt et de signification.
La critique de la danse, en fait, c'est que soit on... Elle renvoie à autre chose, soit la danse est valorisée parce qu'elle renvoie à autre chose qu'elle-même, oui. Donc elle a une valeur éducative, allégorique, soit si on la prend en tant que telle, elle est réduite à un divertissement, à un spectacle, comme vous l'avez dit.
C'est cela, c'est comme si elle ne pouvait pas suffire à elle-même, et comme si on devait constamment l'attacher, la rattacher à d'autres choses, alors à d'autres formes d'art pendant longtemps. Et puis ensuite, lorsqu'elle a conquis son autonomie, et bizarrement aujourd'hui, on cherche à l'attacher à une signification qu'on ne verrait pas dans les mouvements, comme si on devait en fait rechercher constamment à percer le mystère des intentions des auteurs ou des danseurs, mais comme si le mouvement lui-même ne parlait pas ou n'était pas chargé d'un sens. Et en fait, on voit, Sparshot, dans son article, souligne bien cette difficulté historique à concilier ces deux dimensions de la danse. Donc il y a vraiment une perspective externe qui considère la danse comme un spectacle purement divertissant, mais en fait un peu creux et vide. Et puis une perspective plus interne où là, la pratique est investie d'une signification. Plus tard, on tient la danse comme une pure technique académique. On admire les belles formes du ballet, les gestes difficiles à effectuer. Mais ça reste creux, vide, voire un peu niais. On la tient pour superficielle, gratuite, voire immorale. Elle reflète surtout l'hystérie des participants, voire leur caractère efféminé. Et donc elle est l'objet d'une critique très négative pour ces raisons-là. elle mêle en fait la virtuosité et peut-être un peu le voyeurisme. Donc il y a toute cette mauvaise réputation qui est peut-être liée simplement au corps. On va jusqu'à l'assimiler à une simple titillation des sens qui pervertit les valeurs artistiques.
Et il y a aussi une autre dimension de la danse, c'est que la danse est quelque chose que tout le monde peut effectuer. Il y a un caractère quotidien, familier de la danse. C'est-à-dire que là, on peut parler du côté spectaculaire quand des gens se reproduisent sur une scène. Mais finalement, l'extrait du film de Whit Stillman, c'est celui-ci. C'est que tous les samedis soirs, on a envie de danser. Et en cela, ce n'est pas un spectacle, mais effectivement, c'est quelque chose de quotidien. Et on peut se poser la question à partir de quand la danse, effectivement, à défaut d'être un art mineur, peut tomber effectivement dans ce côté quotidien, familier.
Oui, c'est ça, tout à fait. Tout le monde peut danser, tout le monde peut savoir danser dans une certaine mesure. Et les enfants déjà dansent très tôt, dès qu'ils sont en âge de marcher et de percevoir les rythmes. Très vite, on les voit balancer les hanches et puis se mouvoir en rythme. Et on peut même noter que dans la nature, les animaux dansent, ils effectuent des parades nuptiales. Les perroquets sont capables, il existe tout un tas de vidéos un peu stupides sur YouTube où on voit des perroquets danser en rythme. Danser en rythme, se mouvoir en rythme, la question étant de savoir si c'est de la danse. Mais effectivement, on peut voir la danse partout, dans les boîtes de nuit, dans les fêtes de famille. Peut-être que c'est aussi une hypothèse que n'a pas mentionnée Sparshot, mais qui est intéressante, oui, et pertinente.
Alors, comment faire pour finalement proposer une philosophie de la danse, alors même qu'elle a une fonction limitée, hybride, alors même qu'elle a un caractère superficiel, immoral, divertissant, et aussi autre chose, quelque chose qu'on n'a pas noté, mais parce qu'elle est multiple aussi, la danse. Il y a des danses religieuses, mais aussi des danses artistiques, on va dire, pour diviser ça un petit peu grossièrement, d'un côté les danses sociales et de l'autre les danses artistiques. Elle a aussi un caractère éphémère, un caractère quotidien, familier. Donc comment, à partir de ça, effectivement, construire une philosophie, en fait, un discours adéquat qui puisse rendre compte de cette pratique si insaisissable?
C'est cela. Alors, compte tenu de tout ce qu'on a énuméré, on peut se demander en effet en quoi la danse est-elle digne d'un intérêt philosophique. Vous avez mentionné la nature éphémère de la danse, c'est aussi un point intéressant, puisque une fois qu'on a vu un spectacle de danse, que le spectacle est terminé, il n'y a plus rien, il ne reste plus de traces. Un tableau, c'est un tableau, vous pouvez aller voir la Joconde tous les jours, elle sera là, une sculpture de même. La danse, elle est évanescente, elle disparaît une fois effectuée, en tant qu'art, en tous les cas. Et il peut rester, alors aujourd'hui, des enregistrements vidéo qui permettent d'avoir une trace. On peut retrouver, même sur Internet, des extraits de...
Mais c'est la même chose avec le théâtre.
Et c'est la même chose avec le théâtre, voilà. Ou la musique, même, en tant qu'art de l'interprétation. Le problème des arts de la scène ou de l'interprétation, c'est qu'ils sont multiples. Alors, il y a une œuvre, comme le Lac des Cygnes, mais ces œuvres doivent s'instancier, en fait, dans des... concrètement, dans des représentations... multiples, alors à différents moments, au même endroit, ou à différents endroits au même moment. On peut voir le Lac des Cygnes sans doute un peu partout sur la planète. Et pourtant, une fois que le Lac des Cygnes est effectué, il disparaît. Donc on peut se demander un petit peu où est cette œuvre, en quoi consiste l'identité d'une œuvre. Ça, je pense que vous en parlerez plus
on
tard.
On en parlera jeudi avec Frédéric Pouillot.
Mais c'est aussi peut-être une difficulté à la saisir conceptuellement, ce caractère éphémère. Et puis les systèmes notationnels pour la danse, il existe des systèmes notationnels qui peuvent s'apparenter ou s'approcher aux systèmes notationnels musicaux, mais ils sont imparfaits. La part d'indétermination est plus grande lorsqu'on cherche à mettre en représentation une partition chorégraphique, puisque l'écart est très grand entre les deux dimensions sur le papier de la notation, et puis les quatre dimensions, donc les trois dimensions du mouvement, et puis la dimension temporelle dans l'espace, dans le temps. Donc c'est très très difficile en fait de la saisir, même pour les danseurs.
Notre extase en danse vient du don possible de liberté, ce moment enivrant qui nous est donné par l'exposition de l'énergie pure. Et il ne s'agit pas de permissivité, mais bien de liberté, c'est-à-dire d'une conscience totale du monde et en même temps d'un état de détachement vis-à-vis du monde. Je pense que c'est la relation avec l'immédiateté de l'action, l'instant unique, qui donne le sentiment de liberté humaine. Un corps lancé dans l'espace n'est pas une idée de la liberté de l'homme. C'est un corps lancé dans l'espace. Et cette action est toutes les actions. Elle est la liberté de l'homme et, dans le même instant, sa non-liberté. Vous voyez comme il est facile d'être profond quand on parle de danse. La danse semble être un double naturel du paradoxe métaphysique. En référence à l'idée courante selon laquelle la danse doit exprimer quelque chose en relation avec les images profondes de notre conscience et de notre inconscient, mon impression est qu'il est inutile de les provoquer. Si ces images primordiales, païennes ou de quelque façon archétypales, sont inscrites profondément en nous, elles vont apparaître, sans égard pour nos goûts ou nos dégoûts, dès que la voie sera ouverte. Il s'agit simplement de donner la possibilité aux choses d'avoir lieu. On peut voir ainsi la discipline du danseur, son rituel quotidien, rendre possible la circulation de l'esprit dans les membres et l'extension de ses manifestations à travers l'espace, avec toute sa liberté et sa nécessité.
Suzanne ?
Pour moi, ce serait Marie Curie, Simone de Beauvoir et Margaret Sanger.
Bien. Violette ?
Moi, je dirais Richard Strauss, Roderick Charleston et Chubert Checker.
Richard Strauss, le compositeur?
Oui, c'était en effet un de ses talents.
Je n'ai pas le plaisir de connaître les autres. Quel est le rapport entre ces trois personnes?
Chacun de ces hommes, à son époque, a lancé une danse qui a connu un retentissement international. Strauss, la valse, Roderick Charleston, le Charleston, et Chubert Checker, plus connu comme Chubby, a inventé le twist.
En quoi considérez-vous que lancer une nouvelle danse soit si important?
Ce type d'événement social engendre une nouvelle expérience positive. Pour danser ensemble, des millions de gens peuvent communiquer fort joyeusement sur le fait d'avoir toutes leurs facultés. Et ils peuvent également se réjouir à l'idée de transmettre ce mode d'expression physique aux générations futures, quoique plus tellement de nos jours.
Je supposais que le Charleston devait son nom à la ville de Charleston, en Caroline du Sud.
Non, bien que cette fausse idée soit largement répandue comme tant d'autres, ça vient de Roderick Charleston. Mais en général, à la base d'un projet créatif qui révolutionne la planète, il y a une personne, et non une ville.
Julia Bocquel, on vient d'entendre deux choses. D'abord, un texte de Merce Cunningham, lu par Jean-Louis Jacopin. C'est extrait d'un article « L'art impermanent » de 1955. Merce Cunningham, qui est donc le danseur et chorégraphe américain. Puis on a entendu un extrait d'un autre film de Whit Stillman qui s'appelle « Damsel in Distress » qui date de 2012, dans lequel on entend Violette citer, non pas à titre de savant, d'inventeur, d'événements d'événements politiques et sociaux importants, non pas trois savants, mais trois créateurs de danse. D'ailleurs, je note qu'elle est Richard Strauss, l'inventeur de la valse. Il s'agit de Johann Strauss, normalement. Mais passons là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, tout à l'heure, on a vu, a délaissé la danse. Il y a quelque chose dans la danse qui était rebelle à être théorisé. Et or, on voit avec Merce Cunningham et Damsel in Distress que finalement, la danse serait peut-être la manifestation d'une certaine nature humaine. Et comme le dit Merce Cunningham, que la danse rendrait possible la circulation de l'esprit dans les membres. Alors, est-ce que ça suffit, Julia Bocquel, à établir un lien entre philosophie et danse de dire ça ?
Alors oui, là, le texte de Merce Cunningham et puis le second extrait sont davantage intéressants puisqu'ils sont vraiment au vif du sujet. Donc Cunningham savait bien de quoi il parlait. Il aborde effectivement l'idée selon laquelle, en fait, l'action dansée, lorsqu'il dit cette action et toutes les actions, c'est intéressant puisque c'est une manière de montrer que l'action dansée, en fait, elle exemplifie ce qu'est l'action humaine en général, dans un sens extrêmement large. Il évoque également le thème de la liberté. Donc, lorsqu'il dit l'action du danseur, c'est la liberté et en même temps sa non-liberté, ça paraît mystérieux ou contradictoire même. Mais en fait, c'est une manière de montrer à quel point un danseur exprime des problèmes, incarne en fait des problèmes qui sont très métaphysiques, à savoir le rapport entre l'intention et l'action, le corps et l'esprit, peut-être l'émotion et la rationalité, alors pas pour Cunningham qui n'était pas intéressé par l'expression des émotions, mais en tous les cas, la liberté et la contrainte, la passivité et l'activité, l'improvisation et la composition, la subjectivité et peut-être l'objectivité, toutes ces questions-là sont bien exprimées dans ce texte.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la danse, en fait, n'est pas un moyen d'exprimer des idées métaphysiques, mais au contraire, en fait, elle les incarne. Vous avez utilisé ce terme d'incarner. Donc, en quoi on peut dire que la philosophie est traversée par des problèmes philosophiques ? Parce que le problème aussi, quand on suit Merce Cunningham, de dire que l'esprit circule à travers le corps, c'est aussi de dire, en fait, que finalement, la danse, ce n'est que de la pensée en mouvement ou que le mouvement de la pensée.
Voilà, exactement. Alors c'est ce que j'ai essayé un petit peu de montrer et de développer dans ma thèse et ainsi que dans ce premier volume, Philosophie de la danse. En fait, c'est l'idée que si on maintient une sorte de thèse dualiste, platonicienne, à savoir la séparation entre la séparation bien connue entre un monde intelligible et puis un monde sensible, donc entre le corps et l'esprit, pour le dire plus rapidement, on ne peut pas penser la danse, puisque la danse, en fait, comme le dit le théoricien du mouvement et de la notation, Rudolf Laban, cherche à intégrer le corps et l'esprit. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de développer en utilisant les thèses de Ronald de Souza, un Américain. Il a écrit un volume très intéressant intitulé « La rationalité des émotions ». Et cette rationalité des émotions qu'il décrit si bien et qu'il analyse si bien, en fait, moi, j'ai essayé de l'adapter, enfin, de l'appliquer à une réflexion sur le mouvement. Mouvement et émotion proviennent de movere, ont la même étymologie. Et c'est pas pour rien, d'un côté, toutes ces distinctions que j'ai évoquées tout à l'heure, en fait, entre la passivité et l'activité, la subjectivité et l'objectivité, en fait, sont présentes dans les studios de danse lorsque les danseurs développent leurs pratiques et leurs techniques. Alors, en fait, cette notion, aussi ce rejet du dualisme corps-esprit ou émotion-rationalité a été beaucoup développé par le philosophe américain Nelson Goodman, qui est un incontournable lorsqu'on réfléchit aujourd'hui à l'esthétique philosophique.
Un esthéticien analytique.
Voilà, c'est un esthéticien analytique, auteur de Langage de l'art et puis de Manière de faire des mondes. Donc lui, il rejette totalement cette distinction entre l'émotion et la rationalité. Il dit, lorsqu'on comprend quelque chose, les émotions en réalité sont cognitives, on comprend avec émotion. Et c'est plus intéressant, on trouve déjà ça chez Aristote, hein. La connaissance procure du plaisir. Il y a un texte d'Aristote sur l'imitation, donc là c'est l'art de l'imitation, ça ne concerne pas la danse, mais c'est plus intéressant enfin, pour penser l'art de la danse que le dualisme platonicien. Aristote, lui, ne fait pas cette distinction radicale entre l'art des images qui peut nous apprendre quelque chose et qui en même temps nous procure du plaisir.
Alors, en retour, pardon, la danse, si on part de Souza que vous avez cité, d'Aristote, mais aussi de Nelson Goodman, comment en fait la danse permet de redéfinir la philosophie ? Comment elle lui permet de dépasser ce dualisme entre le corps et l'esprit ? Et du coup, quelle philosophie pour la danse ? C'est-à-dire que dire que la danse lie le corps et l'esprit, concrètement, Quelle définition de la philosophie de la danse, à quelle définition de la philosophie de la danse on parvient ?
Alors, c'est délicat. Je pense qu'il existe plusieurs manières d'approcher la pensée de la danse, des traditions plutôt phénoménologiques, où on parle beaucoup du vécu du danseur, de ses sensations. Donc là, on est beaucoup dans le ressenti, la sensibilité, l'auto-affectivité, l'auto-réflexivité. Mais à mon sens, ces approches-là, même si elles peuvent être très, très justes et très intuitives, en un sens, manquent aussi peut-être un petit peu d'objectivité, ou en tout cas ce qui m'a plu moi dans la philosophie analytique, c'est cette exigence de clarté, d'objectivité, l'analyse conceptuelle rigoureuse. Et il me semble que quand on réfléchit sur le concept de liberté ou sur le concept d'action, en fait la danse vient assez aisément exemplifier ces problèmes apparemment abstraits. Il me semblait, moi, en tant que danseuse, quand je faisais mes études de philosophie en même temps, je rapprochais constamment les deux. Ce petit point entre théorie et pratique, il n'est pas nouveau. Mais étrangement, je comprenais davantage ma pratique à la lumière des concepts philosophiques que j'étudiais. Et inversement, la philosophie me faisait enfin, dans ma pratique de la danse, je me posais des questions qui étaient plutôt assez philosophiques.
Mais on comprend les limites de l'approche phénoménologique de la danse en ce qu'elle, comment dire, reste enfermée dans une sorte de subjectivité du danseur, qu'il y aurait une sorte d'insondable, de mystère propre au corps dansant et dont on aurait du mal à rendre compte. Mais l'écueil de la philosophie analytique, n'est-ce pas, de plaquer des idées sur le corps. Et on retomberait dans un problème classique de l'esthétique, enfin de la philosophie de l'art, qui est en fait la position de surplomb de la philosophie sur la multiplicité des œuvres d'art et sur, comment dire, la fugacité, l'éphémère, ce qu'on disait tout à l'heure de la danse, le fait qu'elle soit insaisissable. Est-ce qu'on perd pas ça avec l'esthétique analytique ?
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on peut reprocher peut-être au discours analytique. Enfin, c'est ce qu'on entend de temps en temps, c'est que c'est un discours finalement désincarné. Et qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire avec la danse ? Mais je ne crois pas cela. Je crois qu'on peut réellement, en fait, dire des choses apparemment abstraites à partir d'intuitions très, très concrètes, vécues, et que le seul discours philosophique pertinent sur la danse n'est pas nécessairement le discours de la phénoménologie. J'ai l'impression que ce dualisme, cette difficulté à concilier la perspective interne-externe, elle subsiste toujours un petit peu aujourd'hui en filigrane dans les discours des danseurs eux-mêmes ou peut-être même des critiques de la danse, que la danse serait une expression, l'expression d'une sensibilité purement subjective, corporelle, voire irrationnelle, l'idée qu'on ne peut pas dire le corps dansant, encore moins si l'on n'est pas soi-même danseur, ou que dire la danse, comme vous disiez à l'instant, reviendrait finalement à éliminer l'activité de danser, à la saisir, à l'isoler, à en faire un objet un peu. Et voilà, et qu'on ne peut donc pas chercher à la comprendre ou à développer à son sujet un discours théorique digne de ce nom. Donc l'expression... finalement, on reste un petit peu dans une approche dualiste et subjectiviste. La danse échapperait à l'objectivité intellectuelle et à la compréhension, à l'analyse et au discours philosophique. Mais lorsqu'on développe l'idée d'une rationalité de l'action, d'une pensée, on s'aperçoit que, en fait, il ne faut pas assimiler nécessairement la pensée rationnelle au comportement ou à l'action rationnelle. Ça, c'est une distinction qui est intéressante. L'action rationnelle, elle a moins à faire finalement avec la logique, avec le raisonnement, qu'avec une capacité à saisir des aspects concrets du réel et puis à y réagir de manière appropriée. Et à mon sens, c'est ce que fait un danseur. Un danseur développe des capacités physiques, techniques, très élaborées. Mais en même temps, lorsqu'il devient interprète, et qu'il improvise ou qu'il crée même, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de réagir d'une manière appropriée à des perceptions, à des propriétés musicales, par exemple, qu'il perçoit. Il souligne un contexte qu'il essaie de manifester dans son mouvement. Et là, il fait sens de parler de rationalité de la danse.
Alors,
c'était pour vous dire que j'ai répété la coda hier soir et j'ai fini.
Écoute, Nina, franchement, je me fiche éperdument de ta technique. Tu devrais commencer à le savoir.
Oui, mais hier...
Non, de toute façon, j'ai déjà choisi Véronica, donc...
D'accord, merci.
C'est tout ? T'essaies même pas de me convaincre. Tu devais y croire, pourtant. Bon. Tu veux que je te dise ? Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Oui, tu es belle, craintive, fragile, pile le personnage. Mais le signe noir, putain, c'est dur d'incarner les deux.
Je peux danser les deux.
C'est vrai ? Depuis 4 ans que je te vois danser, je t'ai toujours vu t'acharner à réussir tous les pas à la perfection, mais pas un seul instant je t'ai vu te lâcher. Jamais. Toute cette discipline, pourquoi ?
Je veux être parfaite.
Quoi ?
Je veux être parfaite.
La perfection, c'est autre chose que la maîtrise. Il s'agit aussi de savoir s'abandonner. Se surprendre soi-même pour surprendre la salle. Se transcender. Et il y a très peu de gens qui ont ça en eux.
Je crois que j'ai ça en moi.
Cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu avoir la paix se sont partagés en deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir Dieu. Les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir bêtes brutes. Mais ils ne l'ont pu ni les uns ni les autres. Et la raison demeure toujours, qui accuse la bassesse et l'injustice des passions et qui trouble le repos de ceux qui s'y abandonnent. Et les passions sont toujours vivantes dans ceux qui y veulent renoncer. Guerre intestine de l'homme entre la raison et les passions. S'il n'y avait que la raison sans passion, s'il n'y avait que les passions sans raison. Mais ayant l'un et l'autre, il ne peut être sans guerre, ne pouvant avoir paix avec l'un qu'ayant guerre avec l'autre. Aussi, il est toujours divisé et contraire à lui-même.
Tac, 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 c'est ça. Sauf que toi, tu restes là, tu descends et après, tu peux tout faire en même temps. Alors que c'est tac, tac, dans la descente, tac, tac, dans la descente. Et toi, tu fais ça et après, t'essayes. Et si tu penses que c'est ça, c'est là que c'est important. Voilà, dans la descente, passe ta jambe devant, non ! Regarde !
Quand j'arrive à Ravel,
quand tu descends, ton talon, t'es devant. Quand tu descends, ton talon, t'es devant, voilà ! Quand tu descends, ton talon, t'es devant. C'est un passage, la rabaisse. Oui, non, mais pourquoi tu veux remonter ?
Now give me 415 amps into the boat. Yeah, that's it. Let's try it. 5, 6, 7, and 1, 3, 4, singular, left, right. 1, 2, 3, step, touch, 7, 8, 1. Good. Now we double back and repeat it to the left. Singular sensation, every little step, step, pivot, double turn, 1, right.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le premier temps de notre semaine consacré à la danse. Et l'on se demande aujourd'hui ce qu'est la danse. A-t-elle une philosophie ? En compagnie de Julia Bocquel, docteur en philosophie et danseuse, et qui a dirigé avec Roger Puivet une philosophie de la danse disponible aux presses universitaires de Rennes, et auteur d'une esthétique de la danse, le danseur, le réel et l'expression, à paraître aussi aux presses universitaires de Rennes.
Let's pick up from one smile. 5, 6, 7, 8. One smile and suddenly step, kick, pivot, touch, step, push, kick, and drop the hat. No, that doesn't work. Look, what if we don't start the step kick until after the repeat on every move that she makes? That would match up on doing it.
Julia Bocquel, on vient d'entendre trois choses. Un extrait du film Black Swan, film de Darren Aronofsky, un film incontournable sur la danse qui date de 2010. Puis j'ai lu la pensée 621, édition La Fuma de Pascal, sur la lutte intestine entre la raison et les passions. Et enfin, on a entendu un extrait du documentaire de Frédéric Wiseman, La danse, le ballet de l'Opéra de Paris, qui date de 2009. Et ce qu'on voit à partir du texte de Pascal, à partir de cette idée de lutte en l'homme entre la raison et les passions, on voit que ça s'applique aussi au cas des danseurs. D'un côté, Nina, dans Black Swan, qui est incapable de se lâcher, capable d'une perfection technique, mais incapable de s'abandonner, comme lui dit Thomas Leroy, interprété par Vincent Cassel. Et comme on l'entend aussi avec la danseuse de la répétition, qui échoue à effectuer un mouvement. Elle ne parvient pas à faire son arabesque parce que ce n'est pas logique, dit-elle, on l'entend de très loin. Et comment on peut se demander, à partir de là, vous l'avez évoqué juste avant qu'on entende ces extraits-là, l'idée que la danse permette de lier l'émotion et la raison, mais quand on entend l'émotion dans son sens étymologique de mouvement, on voit que cette lutte peut être dépassée par la raison et par la danse, et c'est dans ça que la danse serait le traversée philosophiquement.
Oui, tout à fait. Cet extrait de Black Swan est intéressant. Je l'ai commenté dans ma thèse, donc qui va paraître à l'automne. C'est vraiment un sujet qui m'a passionnée, cette tension qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, puis entre la raison ou la volonté, en fait, les facultés mentales et puis les facultés physiques d'autre part. Nina, le problème de Nina, c'est que manifestement, elle parvient à effectuer avec virtuosité la chorégraphie du signe blanc, mais elle n'arrive pas à effectuer la chorégraphie du signe noir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive pas, en fait, à abandonner sa quête de perfection, de contrôle, et elle ne parvient pas, comme lui dit le maître de ballet, à lâcher prise, à être traversée par le mouvement, en fait. Et cette idée qu'il faille servir le mouvement et non pas se servir du mouvement, lâcher le mouvement, être traversé, l'idée que le mouvement ne nous appartient pas mais qu'il nous traverse, c'est quelque chose que je trouvais a priori très, très mystérieux et sur lequel j'ai essayé de mettre des mots, des concepts clairs, des analyses. On peut réfléchir à cela aussi bien en ce qui concerne la technique. la technique, en fait, exige énormément d'efforts et de travail et de contrôle, de compréhension aussi, de la bonne manière d'effectuer des gestes. Apprendre à danser, ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel. Lorsqu'on parle de la danse en tant qu'art, il y a des codes, des normes, une bonne façon, une façon correcte d'effectuer un geste ou un mouvement. On connaît les positions de la danse classique et puis ensuite les gestes très laborieux et difficiles à effectuer, du développé, de l'enveloppé, les sauts de chat, le grand jeté. Il y a tout un vocabulaire quand même de la danse, toute une technicité qui exige énormément de travail volontaire. Mais ensuite, lorsqu'on essaie de devenir un interprète, il faut être capable de lâcher cela, c'est-à-dire de se servir de la technique pour autre chose. Mais si on s'en tient simplement à l'effectuation technique, on peut être un excellent danseur dans le corps de ballet, mais le problème de Nina, là, c'est qu'on attend qu'elle soit une danseuse soliste, l'étoile, qui doit nous apporter quelque chose de plus. Et donc, il lui dit, très bien, son maître de ballet, laisse-toi surprendre par le mouvement, afin de pouvoir surprendre les spectateurs. Donc, ne fais pas ce que tu sais, c'est-à-dire ne te contente pas d'effectuer ta chorégraphie apprise par cœur et maintes fois répétée. Il faut aller plus loin que cela. Et là, il y a cette idée qu'on arrive à une sorte de degré extrême de maîtrise technique, un stade où on peut réussir à atteindre autre chose, c'est-à-dire une sorte d'abandon, en fait, s'abandonner au mouvement. Et donc, finalement, ce n'est pas tant l'ego du danseur qui importe, sa capacité à atteindre la perfection, c'est ce par quoi Nina est obsédée dans ce film, mais c'est l'œuvre qu'elle sert, c'est l'œuvre que le maître de ballet veut voir incarner dans ses gestes. Et pour cela, en fait, cela nécessite un abandon. Donc c'est à la fois dans la dimension technique, mais aussi dans la dimension d'interprétation. À partir de là, on peut réfléchir sur les notions, les concepts de passivité et d'activité. En un sens, on assimile la sensibilité très souvent à la passivité, on reçoit, mais en même temps...
C'est le terme même de passion. Passion, voilà. Et passivité ont la même étymologie.
Oui, tout à fait.
De subir, de souffrance, enfin de souffrir, de pâtir.
C'est ça. Et les danseurs, en fait... ce qu'on leur demande, c'est à la fois d'être très actif, mais en même temps d'être réceptif. Plutôt que passif, d'ailleurs, c'est plutôt la notion de réceptivité qui peut être intéressante. C'est-à-dire qu'un danseur doit être capable d'interpréter quelque chose en étant à la fois très conscient de ce qu'il fait, donc des gestes appris, mais en même temps, il doit répondre à la musique ou répondre à des idées que la chorégraphie incarne. Selon les œuvres, ça peut varier énormément. La danse de Cunningham n'est pas une expression d'émotion, mais elle est tout de même traversée par cette maîtrise et cette volonté d'exprimer autre chose que la simple technicité d'un danseur. Donc ces thèses-là, en fait, rejoignent en philosophie peut-être une sensibilité plutôt réaliste, c'est-à-dire que le monde nous précède et on n'est pas... premier. Le monde doit... nous sommes avant tout, en fait, des récepteurs et des transmetteurs de quelque chose. Et le danseur, je le vois un petit peu comme ça, comme cet être qui doit essayer de devenir transparent pour servir une œuvre. Et donc, de même que la philosophie tente de donner une description juste de la réalité, si on estime que la réalité a peut-être une structure, un ordre, le danseur, lui aussi, le danseur-interprète, doit offrir une interprétation juste et claire de l'œuvre chorégraphique qu'il doit servir.
Mais tout à l'heure, vous avez écarté l'approche phénoménologique de la danse en pointant, enfin, on a pointé ensemble l'idée qu'on pouvait être... On courait le risque d'être enfermé dans l'expérience subjective du danseur. Mais finalement, ce que vous décrivez, ce n'est pas si différent d'une approche phénoménologique. Le sujet en phénoménologie est engagé dans le monde et ses gestes, avant, il ne fait pas des gestes en extériorité du monde, il est pris dans le monde. Ce n'est pas d'un côté le sujet face à un monde. Il y a toute cette idée d'être engagée dans le monde.
Oui, tout à fait. Et c'est très juste. De toute façon, je pense que ce sujet de réflexion peut être abordé de différentes manières. La phénoménologie le fait très bien à sa manière. Je pensais simplement qu'on pouvait aussi essayer de le conceptualiser, ce problème, avec des concepts et des analyses conceptuelles. Qu'est-ce que c'est qu'être volontaire ? Qu'est-ce que c'est que d'être réceptif, que de percevoir des propriétés autour de soi, des propriétés musicales, des propriétés chorégraphiques, des autres danseurs autour de soi, parce qu'un danseur est aussi relié à un corps de ballet. Donc, il me semble qu'il y a des méthodes différentes en philosophie, simplement, qui abordent les mêmes problèmes. Moi, ce que je voulais, c'était essayer de peut-être montrer qu'en philosophie analytique pouvait exister une philosophie de la danse aussi technique et construite que peut-être la philosophie de la musique, parce qu'il existe beaucoup de choses en philosophie de la musique, ou sur la fiction, sur la littérature, sur les autres arts. Et il me semblait qu'en danse, ça manquait un petit peu. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire.
Danser. Continuez à danser tant que tu entendras la musique. Tu comprends ce que je te dis ? Danse. Continue à danser. Ne te demande pas pourquoi. Il ne faut pas penser à la signification des choses. Il n'y en a aucune au départ. Si on commence à y réfléchir, les jambes s'arrêtent. Et si tes jambes s'arrêtent de danser, moi je ne pourrai plus rien faire pour toi. Tous tes liens disparaîtront pour toujours. Et tu ne pourras plus vivre que dans ce monde-ci, de ce côté. Tu seras aspiré par le monde d'ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'arrêter. Même si tout te paraît stupide, insensé, ne t'en soucie pas. Tu dois continuer à danser en marquant les pas et dénouer peu à peu toutes ces choses durcies en toi, un tout petit peu au début. Ce n'est peut-être pas encore trop tard. Utilise tout ce que tu peux, fais de ton mieux. Il n'y a rien dont tu doives avoir peur. Tu es fatigué, c'est sûr. Tu es fatigué, tu as peur. Ça arrive à tout le monde. Tu as l'impression que tout va de travers, que le monde entier se trompe et tu t'arrêtes de danser. Mais il n'y a rien d'autre à faire que danser, et danser du mieux qu'on peut, au point que tout le monde t'admire. Danse, danse, tant que la musique durera.
You know, the older I get, I don't come into the studio with preconceived ideas. It is impossible. So I try to create an atmosphere in which everybody participates in the creation, rather than me imposing them, say, do this, do that, do that. When I was very, very young and extremely insecure, then I worked out everything at home, and I knew that everything worked perfectly when I told the dancers what to do. This is, of course, the most boring way of creating. To share the experience and to have the input of the dancers, it makes the choreography richer and makes it more fun.
Julia Bockel, on a entendu un extrait du roman de Haruki Murakami, Danse, 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 qui date de 1988. Puis on a entendu après l'interview du chorégraphe et danseur tchèque de danse contemporaine, Jiří Kilian. Alors il parlait en anglais, mais on comprend à peu près ce qu'il dit. Il dit en gros qu'il n'arrive plus avec des idées préconçues pour travailler, mais que désormais, en fait, il enrichit sa chorégraphie de l'apport des danseurs. Et ce qu'on voit à la fois avec l'extrait du roman de Murakami qui trace en fait l'itinéraire d'un narrateur anonyme qui va faire des rencontres un petit peu surnaturelles. Il va rencontrer l'homme mouton qui en fait va l'exhorter à danser comme on l'a entendu dans l'extrait. Et en fait la danse à chaque fois dans ces deux extraits apparaît comme une rupture qui viendrait abolir l'idée très la dissociation qu'on fait habituellement entre d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Dans le texte de Murakami, il lui dit il ne faut pas penser à la signification des choses. Et de la même manière, dans l'extrait de Jiří Kilian, il dit en gros qu'il n'a plus d'idées préconçues. On a donc dépassé l'idée d'une dualité entre d'un côté l'intention et l'action grâce à la danse.
Oui, alors c'est très intéressant. L'extrait de Jiří Kilian me plaît beaucoup parce qu'il permet d'évoquer une caractéristique assez centrale en danse contemporaine, à savoir le fait que les chorégraphes, en général, ne créent pas avec une partition préalable dans la solitude de leur studio. Il crée par un premier mouvement ou par des premiers mouvements, des improvisations, et souvent collectives en fait. Donc le chorégraphe est dans son studio avec les danseurs, et c'est une sorte de laboratoire à partir duquel émergent des improvisations. Et s'il y a un notateur, il n'est là que pour enregistrer ses premières improvisations et en retenir en fait ce que sera l'œuvre que souhaite garder le chorégraphe. Et cette idée en fait de l'intention préalable suivie d'une action physique, en fait, repose le dualisme problématique qu'on évoquait tout à l'heure entre d'un côté le monde mental intérieur et puis le monde physique extérieur, comme si c'était deux choses, mais du coup, si c'est deux choses différentes, comment les concilier? C'est un petit peu ça le problème. En fait, ça ne marche pas si on essaie de penser la danse. Assez vite, on se rend compte que la réalité de la danse montre que ça se passe autrement dans les studios. Et pour cela, bah justement, une philosophe analytique qui a beaucoup pensé le problème de l'intention et de l'action a montré que on peut pas maintenir cette distinction entre l'intention et l'action. Ce qu'il faut, en fait, pour comprendre ce que c'est que l'intention...
Vous parlez d'Elisabeth Anscombe.
D'Elisabeth Anscombe, pardon, je ne l'ai pas nommée. Donc, de son livre « L'intention », tout simplement. Ce qu'il faut, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'une intention, ce n'est pas de... Le problème de l'intention, ce n'est pas de la rattacher à l'action, de savoir comment la rattacher à l'action, mais de donner une description juste, une certaine description d'une action. Comprendre une intention, c'est finalement décrire de manière juste les différentes étapes d'une action. Et ça, justement, c'est une façon de montrer à quel point la philosophie analytique apparemment abstraite rejoint des préoccupations tout à fait concrètes des danseurs dans les studios. Et c'est ce que disent beaucoup les chorégraphes. Il y a un autre chorégraphe, Akram Khan, dit la même chose, qu'au départ, on crée en essayant d'importer dans le studio un maximum de choses qui sont préétablies, préconçues. On a un thème de travail, peut-être même une esquisse de chorégraphie. Et puis, petit à petit, on arrive avec, dans le studio, et ça, c'est plutôt la méthode de Pina Bausch. Elle arrivait dans le studio et puis elle demandait des choses toutes simples aux danseurs. Quel est le premier geste que vous faites en vous levant le matin? Elle ne savait pas où elle allait. Elle l'admettait elle-même. Les danseurs étaient un petit peu confus d'ailleurs de ne pas comprendre où Pina les emmenait. Et elle faisait les choses, elle décidait de choses au dernier moment, jusqu'au dernier moment avant la représentation, la première représentation. Donc c'est intéressant comme ça permet de repenser ce dualisme et de montrer à quel point il ne tient pas, en fait.
Grâce à la danse, en fait, on peut tenter de dépasser le dualisme émotion-raison et du coup comprendre à quel point, en fait, l'émotion peut-être contaminer, en fait, toute délibération, toute décision. Finalement, en fait, ce sera avec la danse qu'on pourrait repenser une nouvelle subjectivité, finalement, un nouveau rapport en l'homme entre la raison et les passions, pour reprendre Pascal.
Oui, c'est ça, entre la raison et les passions, et puis entre le sujet et le monde, parce que le danseur n'est pas une entité isolée, coupée d'un monde extérieur ou d'un contexte. Comprendre une œuvre de danse contemporaine ou comprendre des gestes d'un danseur contemporain, c'est en fait voir à quoi on les relie. En fait, le danseur nous montre quelque chose, et ce qu'il nous montre, c'est pas lui, c'est pas sa subjectivité intérieure, c'est pas son monde intérieur, mais ce sont des relations spatiales, des relations temporelles, des relations à des idées, peut-être une composition picturale, une composition musicale, etc. Donc.
Merci beaucoup Julia Bockel.
Merci.
Je suis ravie d'avoir ouvert la semaine sur la danse avec vous. De vous, je rappelle que l'on peut lire votre philosophie de la danse, ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Roger Pouivé. C'est disponible aux Presses universitaires de Rennes et aussi aux Presses universitaires de Rennes, mais qui n'est pas encore disponible, mais très bientôt, à l'automne, vous m'avez dit, votre esthétique de la danse, le danseur, le réel et l'expression.
c'est la fin des nouveaux chemins, mais nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre philosophie de la danse. Demain, ce sera autour du philosophe Michel Guérin qui fera une petite danse pour nous et nous expliquera en quoi la danse n'exprime rien si ce n'est la beauté du geste. Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, pendant un an. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.